Le passage qu'on va prêcher aujourd'hui, c'est Romains, chapitre 11, verset 36. Romains, chapitre 11, verset 36. L'apôtre Paul dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est la principale fin de l'homme. C'est peut-être l'un des versets qui ressort le plus dans toute la Bible. Je pense que chacun de nous savons ce verset. C'est probablement que c'est le cas parce que l'apôtre reconnaît, sous l'inspiration divine, qu'elle est la source de tout notre bien spirituel et éternel. Et même encore pour tout ce qui concerne notre vie actuelle, et deuxièmement parce qu'il reconnaît la raison d'être de toutes choses dans ce monde, ainsi que la vie de chaque créature qui habite ce monde. À Dieu seul soit la gloire, soli Deo gloria, était l'un des cinq piliers de la réforme protestante du 16e siècle. Dimanche dernier, le pasteur Jacques Pelletier nous a parlé de sola fide. Et aujourd'hui, nous parlerons de soli Deo gloria. Nous croyons que Dieu est maître et digne de toute gloire en ce qui concerne le salut des pécheurs, mais aussi dans tous les aspects de la vie de l'homme. Nous recherchons donc à vivre comme nous devrions vivre, c'est-à-dire non pour notre propre bonheur, mais pour l'honneur de Dieu en toutes choses. Nous ne cherchons pas à être d'abord heureux, mais saints en Christ. Et étant saints, nous devenons heureux, parce que Dieu nous a créés pour cela. Une seule chose compte, que Dieu soit servi et adoré, selon sa volonté révélée dans les Écritures. Dans les paroles si grandioses de ces versets, l'apôtre Paul, après avoir exposé magistralement pendant les 11 premiers chapitres l'extraordinaire doctrine chrétienne de l'Évangile, atteint ce point culminant, comme l'auteur du mont Everest. Il prononce une louange et des paroles de gratitude dans une attitude de profond respect et d'humilité. Il proclame, depuis les versets 33 jusqu'à 36, Paul dit, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensible, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné les premiers pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. La contemplation du merveilleux plan divin de rédemption amène l'apôtre à conclure ce chapitre par une doxologie d'une grande importance. C'est pourquoi au verset 36, Paul donne toute la gloire à celui qui est à la fois la source l'auteur et le but du salut de l'homme. Comme Calvin le reconnaît, c'est la preuve que nous ne pouvons pas nous vanter auprès de Dieu de tout bien qui nous appartient, car par lui nous avons été créés à partir de rien et dépendons de lui. Et j'ajouterai que nous ne pouvons pas nous vanter de quelques biens spirituels et éternels que nous avons reçus, puisque tout dans notre salut est de lui, par lui et donc pour lui. L'apôtre conclut en disant que c'est la raison pour laquelle notre être et notre salut est dû à sa gloire. Ne serait-il pas déraisonnable que les créatures créées par lui aient soutenu et sauvé uniquement par la grâce et un but autre que celui d'exalter sa gloire? Nous avons dans ce texte deux points pour notre réflexion. Le premier, la doctrine ou la vérité de l'Évangile exprimée par ces paroles. À cause de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. Ça, c'est la doctrine. Et le second, notre réponse à cette merveilleuse doctrine. À lui soit la gloire pour les siècles. Amen. Dans la doctrine, le grand apôtre pose comme principe fondamental que tout vient de Dieu. Il est la source de toutes choses. Il est celui par qui tout subsiste et se maintient. Et l'objectif final de toutes choses, c'est lui. Ou dans d'autres mots, toutes choses sont à lui qui est la cause efficace de qui tout provient. Il est aussi le médiateur par qui tout a été fait et pour lui comme l'objectif final. Tout est à lui sans aucune autre raison, par lui sans aucune aide extérieure et pour lui sans aucune autre fin, c'est-à-dire de lui, pour lui et par lui. C'est pourquoi notre réponse doit être remplie d'humilité et de reconnaissance. Nous les louons en jetant nos couronnes à ses pieds. À lui soit la gloire pour toujours. Bien que l'homme puisse prêcher en ce monde, ou plus sûr, ce monde sur chacun des aspects mentionnés ici, je voudrais mettre l'accent sur la deuxième partie de notre texte. À lui soit la gloire pour toujours. Sans bien sûr oublier l'importance de la première partie du verset. Le but principal de l'homme, ou notre but suprême en tant que créature de Dieu, et même plus encore en tant que croyant en Jésus-Christ, est de glorifier Dieu. Je sais que nous avons, bien sûr, ces vérités. L'apôtre l'a exprimé de cette manière dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 5-6. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Parlons donc brièvement de notre but ultime ou du but principal de l'homme. Laissez-moi le faire avec des questions simples, cherchant à donner des réponses brèves à chacune d'elles. La première question, je la pose, elle provient de l'un des catéchismes les plus connus des peuples évangéliques chrétiens, le catéchisme de Westminster. Sa première question est: quelle est la principale fin de l'homme? Et la réponse du catéchisme est la suivante: La principale fin de l'homme est de glorifier Dieu et de se jouir en lui pour toujours. Le but ultime qui devrait diriger nos vies est de glorifier Dieu. L'apôtre Pierre le dit, pour que Dieu soit glorifié en tout. En Corinthiens 10, 31 dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ésaïe 43, 7 dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dans le monde, tout a un but. Une voiture nous transporte. L'événement nous couvre. Cette chapelle nous accueille pour adorer notre Dieu. Et nos vies pour exalter Dieu dans le monde. Le Dieu trinitaire, il est la source de notre salut, de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. C'est par sa grâce et sa puissance que nous sommes sauvés du péché et de la colère qui s'abattra sur les sans-croyants. C'est par lui que cela devient une réalité dans notre vie. Par conséquent, toute la gloire lui revient. Il est la source, le directeur et la raison de notre salut. Dieu le Père qui nous a choisis pour nous donner la vie, Dieu le Fils qui a donné sa vie pour nous et Dieu le Saint-Esprit qui produit la vie nouvelle en nous. Nous devons donc glorifier toute la Trinité. Le monde en croyant qui est représenté dans la politique, les médias, les artistes de la télévision, du cinéma, les écoles, les universités, les entreprises, etc., crient haut et fort leur désir d'être autonome, d'être indépendant de Dieu. Et pourtant, plus l'homme tente de s'éloigner de Dieu, plus il se fait mal à lui-même. Comme disaient les anciens d'autrefois, Dieu a uni de façon très, très étroite sa gloire et notre bien. De sorte que lorsque nous vivons pour lui par la puissance de son esprit, en l'aimant et en obéissant à sa parole, nous l'honorons et le glorifions, puis nous recevons ses bienfaits. Bien sûr, nous recevons ses bienfaits par sa grâce. Le théologien renommé Louis Berkhof écrit que le but suprême de Dieu dans la création est la manifestation de sa gloire et que ce but suprême inclut, bien entendu, comme but subordonné le bonheur et le salut de ses créatures, de recevoir les louanges de leur cœur reconnaissant et respectueux. Il est essentiel que nous puissions, une fois pour toutes, nous défaire de cette idée fausse et si profondément ancrée dans nos cœurs que notre bonheur en tant que créature est le but ultime que nous devons viser dans cette vie. Ce n'est pas ça, mais c'est plutôt de glorifier, adorer, honorer notre Dieu. C'est bien cela qui doit être notre but ultime, privilège et honneur, qui apporte comme bénéfice le bonheur et le salut de nos âmes par Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous et reçu par la foi. La deuxième question, quelle est la gloire de Dieu? Nous savons qu'il existe deux types de gloire. La gloire que Dieu a en soi, c'est-à-dire sa gloire inhérente, c'est correct, madame? Inhérente, gloire essentielle à la divinité, à l'être de Dieu, comme la lumière est au soleil. Il est glorieux en lui-même. C'est pourquoi il est appelé dans les Écritures, le Dieu de gloire. Ou comme le dit le psaume 24:7, qu'il est le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, il est le roi de gloire. Un autre écrivain ancien l'a écrit ainsi. La gloire est la lueur de la divinité. Elle est si liée à celle-ci que Dieu ne peut pas être Dieu sans elle. La gloire d'aucune créature n'est essentielle à son être. Par exemple, un roi, un premier ministre, un président est simplement un autre homme lorsque ses fonctions se terminent. Mais la gloire de Dieu est une partie essentielle de lui-même. Sans cela, il ne peut pas être Dieu. Tout comme il est saint, il est amour, il est fidèle, etc., il est aussi glorieux. À cette gloire de notre Dieu, vous ne pouvez rien ajouter, car elle est infinie. C'est ce dont Dieu est le plus jaloux et qu'il n'abandonnera jamais. Et mon honneur ne sera pas rendu à un autre, dit Dieu parmi les prophètes Esaïe. Dieu donne à ses enfants des bénédictions temporaires telles que richesse, honneur et toutes les nécessités de la vie, ainsi que des bénédictions spirituelles telles que la grâce, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, etc. Mais il ne donnera à personne sa gloire essentielle. Un puritain le dit ainsi. Le roi Pharaon enleva un anneau et un chêne en or et le tendit à Joseph en Égypte, mais il ne voulait pas abandonner son trône. Pharaon dit, « J'ai établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » De même, Dieu fera beaucoup pour son peuple. Il leur donnera l'héritage et mettra sur eux une partie de la gloire de Christ comme médiateur. Mais il ne lâchera pas sa gloire essentielle dans le ciel et sur la terre. Il sera plus grand qu'eux. Ainsi, la première référence à la gloire de Dieu dans les Écritures est sa gloire essentielle et inhérente à laquelle nous ne pouvons rien ajouter et qu'il ne partage avec personne. Il existe une gloire, deuxièmement, attributive, c'est-à-dire la gloire qui est donnée à Dieu, celle que ces créatures s'efforcent de lui donner et que nous sommes exhortés à lui donner. En Chronique nous dit, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. » En Corinthiens 6, 20, nous dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Bien sûr, le prix est le sacrifice du Fils de Dieu au calvaire. Donc, Paul dit, « Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est pourquoi nous sommes appelés à faire ça. Le terme « gloire »,« glorifier » a le sens de paraître, croire, penser, opiner, signifie tout d'abord opinion, estimation, et l'honneur d'une bonne opinion en est le résultat. Gérard Kittel nous dit, « Lui rendre gloire, ce n'est pas transmettre quelque chose qu'il n'a pas, mais reconnaître l'honneur qui lui est dû. » On nous dit dans les Écritures, dans les psaumes 22-23, « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. » Dans le psaume 29, 1-2 nous dit, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » C'est donc l'appel à chacun de nous pour glorifier Dieu. C'est le but principal de l'homme. Nous le faisons lorsque nous l'apprécions et le plaçons au centre de notre vie et de nos pensées et que nous professons une estime vénérable. Nous confessons avec le psalmiste, « Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. » Et aussi dans l'épisode 92, verset 8, « Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Frère, notre but dans la vie n'est pas de naître, de grandir, de se reproduire et de mourir. Il ne s'agit pas simplement de bien vivre et d'accomplir tout ce que nous souhaitons. Ce n'est pas d'étudier et d'avoir un diplôme universitaire pour ensuite gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas d'être célèbre et reconnu par d'autres. Ce n'est pas non plus, même si c'est très louable, de développer un esprit altruiste et d'aider les autres. Et nous pourrions donner une longue liste de ce qui n'est pas notre but dans cette vie. Mais comme l'Esprit de Dieu a dit par Salomon, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. En d'autres termes, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. De lui, notre vie vient de lui. Il nous donne notre être. Nous tirons notre souffle de vie de lui. Et comme la vie, le reste des avantages vient de Dieu. Et si nous les recevons tous de sa main généreuse, n'est-il pas raisonnable que nous les glorifions? Ne devrions-nous pas vivre pour lui puisque nous vivons par lui? C'est la fin pour laquelle il nous a créés. L'Éternel a tout fait pour un but. Tout ce que le Seigneur a fait pour lui-même, de même que chaque gouvernement taxe ses citoyens, Dieu recevra la gloire de ses créatures pour tout. Ésaïe 43:21 dit, « Ce peuple que j'ai créé pour moi-même, mes louanges, seront publiés. Il est vrai que nous ne pouvons rien ajouter à sa gloire, mais nous pouvons l'exalter. Nous ne pouvons pas élever Dieu plus de ce qu'il est déjà au ciel, mais nous pouvons l'élever dans l'estime des autres sur la terre. Si le ciel annonce la gloire de Dieu, pourquoi ne l'annoncerions-nous pas davantage? Donc, troisièmement, comment pouvons-nous donner la gloire attributive à Dieu? Comment peut-on le faire? Laissez-moi mentionner quelques manières pour lesquelles nous pouvons glorifier Dieu. Donc, nous glorifions Dieu quand avec une foi authentique et une confiance certaine, que nous avons reçu par sa grâce bénie, nous admirons ses attributs, ses promesses, son pouvoir et sa sagesse dans la création du monde et dans le salut du pécheur, et nous, nous estimons qu'il est le plus excellent. Mais aussi, nous le glorifions quand nous l'adorons de tout notre cœur et selon qu'il a prescrit dans sa parole. Psaume 50, verset 23 dit: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Psaume 86, verset 12 dit: je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Bien que rien ne puisse être ajouté à la gloire essentielle de Dieu, nous répandons sa renommée. Il est regrettable que Dieu ne reçoive pas plus de gloire de notre part. Combien sont aujourd'hui remplis de murmures et de mécontentement. Il les glorifie rarement en faisant l'éloge de son nom, alors que les saints du ciel ne discutent jamais, il est lu toujours. Nous les glorifions aussi lorsque nous inclinons vers lui toute notre affection. Un amour pur fait partie de la gloire que nous sommes appelés à donner à Dieu. Il se considère glorifié quand on l'aime et que l'on garde ses commandements. Deutéronome 6:10: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et qu'est-ce que l'amour de Dieu? L'apôtre Jean répond: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, gardez mes commandements. Il y a des innombrables façons de glorifier Dieu, et vous pouvez l'étudiez vous-même dans votre Bible à la maison, mais laissez-moi en nommer quelques-unes de plus. Nous les glorifions lorsque nous ne cherchons que sa gloire. Dieu doit être l'alpha et l'oméga de toutes nos pensées, de tous nos désirs, de toutes nos actions. Christ a dit: mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il ajoutait: je ne cherche pas ma gloire. Mais comme quelqu'un l'a dit, l'hypocrite a un œil de bien, car il recherche plus sa propre gloire que celle de Dieu. Comme ceux qui font de ce monde ou des offrandes, d'autres choses, sont un de la trompe pour être loué par les hommes. Nous les glorifions lorsque nous sommes convaincus que la volonté de Dieu est accomplie, même si cela pourrait frustrer la nôtre. Nous les glorifions lorsque nous croyons en ses promesses, lorsque nous croyons en Dieu. Frères, l'incrédulité de nos cœurs est une offense grave à notre Dieu. D'Abraham, il a été dit dans Romains chapitre 4, verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » L'incrédulité est une insulte au Seigneur parce qu'il le nie. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, dit l'apôtre Jean. La foi, en revanche, le glorifie, car il croit que Dieu existe. Nous l'honorons quand nous lui confions tout ce que nous sommes et que nous avons lorsque nous mettons notre vie et nos biens entre ses mains. Sadrach, Messach et Abednego ont glorifié Dieu en croyant. Ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Nous glorifions Dieu avec une confession sincère de notre péché aussi. Le voleur sous la croix avait déshonoré Dieu durant sa vie, mais dans sa mort, il a rendu gloire en se confessant comme pécheur. Il a reconnu, nous souffrons en effet parce que nous avons reçu ce que nos actes méritaient. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entres dans ton royaume. Il a reconnu qu'il méritait non seulement la crucifixion, mais la condamnation spirituelle, la condamnation éternelle. Frère, excuser et minimiser le péché déshonore Dieu. Adam n'a pas nié qu'il avait goûté les fruits défendus, mais au lieu de l'avouer complètement, il a blâmé le Seigneur pour son action. Genèse 3, 12, il a dit, « L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, a mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » En d'autres termes, « Si tu ne m'avais pas donné la femme pour me tenter, je n'aurais pas péché. » La confession glorifie Dieu, car elle l'exonère de toute culpabilité. Elle reconnaît qu'il est saint et juste, quoi qu'il fasse. Néhémie défend la justice de Dieu quand il dit « Tu étais juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu te montres fidèle et nous avons fait le mal. » Nous glorifions Dieu en portant du fruit aussi. Christ a dit à ses disciples, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Frères, ce n'est pas de prétendre être un chrétien qui glorifie Dieu, mais de porter des fruits. Donc, produire les fruits de l'amour et les bonnes œuvres de l'Évangile est un appel pour nous si nous sommes à Christ. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Thomas Watson a écrit, « La foi sanctifie nos œuvres et les œuvres témoignent de notre foi. » Faire du bien aux autres glorifie Dieu. C'est ainsi que Christ glorifia son Père. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup, comme la femme qui a lavé les pieds du Sauveur avec ses parfums de grand prix et les a séchés avec ses cheveux. Une autre idée. Nous glorifions Dieu quand nous sommes satisfaits de l'état dans lequel nous sommes, à l'endroit même où la Providence nous a placés. Lorsque nous reconnaissons avec humilité et foi, sans murmure et plainte, que c'est bien la sagesse et l'amour de Dieu qui nous ont mis là où nous sommes, que ce soit des épreuves ou des victoires, malades ou en santé, dans l'abondance ou la pauvreté. Nous savons du reste que toutes choses concurrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres termes, le chrétien qui glorifie le Seigneur est celui qui reconnaît, en d'autres termes, le chrétien qui glorifie le Seigneur est celui qui reconnaît, c'est le Seigneur qui m'a mis ici et je sais qu'il a, il a fait dans son amour et sa sagesse pour mon bien-être, je me contenterai donc de ma situation et le louerai. Frère, cela glorifie beaucoup le Seigneur. Il se considère très honoré par un chrétien comme ça. Et cela montre l'abondance de la grâce. Quand la grâce nous couronne, bien sûr, il n'est pas difficile d'être content. Mais quand la grâce fait face à l'adversité, alors être satisfait est quelque chose de vraiment glorieux. Nous ne devrions pas être surpris que quelqu'un soit heureux quand tout va bien, mais être satisfait d'être sous la croix, c'est quelque chose que seul un chrétien peut faire par la puissance du Saint-Esprit et en dépendance du Seigneur. Et cela glorifie le Seigneur, car cela montre à chacun que bien qu'il ait peu de choses dans ce monde, il a assez en Dieu pour se sentir satisfait. Nous glorifions Dieu en vivant pour lui. Paul dit, « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ceux qui adorent Mammon vivent pour l'argent. Les épicuréens d'aujourd'hui pour le ventre et leur matérialisme. Et les restes pour satisfaire leur convoitise. Mais les croyants glorifient Dieu en vivant pour lui toujours et en toutes choses. Nous vivons pour lui lorsque nous le faisons pour son service et lorsque nous nous soumettons pleinement à lui. Nous vivons pour lui quand nous travaillons dans son intérêt et que nous répandons son évangile. Dieu a donné à chacun un talent et quand on ne les cache pas dans un mouchoir, mais quand nous les mettons à son service et pour le bien des autres, alors nous vivons pour lui. Quand des parents pieux par leur exemple et l'instruction par la correction quotidienne s'efforcent d'amener leurs enfants à Christ en les élevant dans la discipline et les instructions du Seigneur comme il est de leur devoir de faire, ils glorifient Dieu. Lorsque vous, enfants, vous obéissez à vos parents avec amour et respect, vous glorifiez votre Créateur parce que le Seigneur le commande. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Lorsque le travailleur ne perd pas de temps dans son travail pour des tâches pour lesquelles l'entreprise ne l'a pas engagé, par exemple, voir son téléphone portable, bavarder, etc., c'est vivre pour Dieu et le glorifier. Laissez-moi finir avec ceci. Les hommes, naturellement, laissent de côté leur devoir de glorifier Dieu et pire encore, ils sont les contraires de glorifier Dieu. Pourtant, ils reçoivent la rétribution en eux-mêmes. Rappelez-vous que Hérode, Agrippa, est mort avalé par des vers parce qu'il n'a pas glorifié Dieu. Romains 1, 21 nous dit, en parlant du caractère des hommes sans foi, « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » C'est la caractéristique des hommes impies, mais jamais ceux du peuple de Dieu. Frère, cet thème nous enseigne que le but principal de nos vies ne devrait pas être d'acquérir de grandes possessions, ni de nous faire des trésors sur la terre, ce qui constitue évidemment la dégénérescence de l'humanité depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, comme un vieil homme a écrit. Les hommes, bien souvent, n'arrivent pas à posséder une fortune. Ils partent à la chasse. Ce qu'ils obtiennent, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Quelque chose qui ne comblera jamais leurs âmes de façon profonde. Ils passent leur temps, comme Israël, à accueillir de la paille, sans se souvenir que le but ultime de la vie est de glorifier Dieu. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vin? Ces choses disparaissent bientôt. Frères bien-aimés, imitons cette dévotion de l'apôtre Paul, qui a proclamé « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. » Dans tous les siècles. Comme Spurgeon l'indiquait, je pense que cette phrase doit être la prière et la devise de chacun de nous. « À lui soit la gloire pour toujours. » Que ce soit notre seul et notre plus grand souhait, bien que nous ayons d'autres désirs, que tous vos souhaits soient toujours soumis à ces plus grands désirs et buts dans votre vie. Nous pourrions souhaiter une bonne éducation pour nos enfants, oui, mais seulement à Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Nous pouvons souhaiter prospérer dans nos entreprises, oui, mais tant que cela pourrait nous aider à promouvoir ceci, à lui soit la gloire pour toujours. Nous pouvons souhaiter obtenir plus de dons et de connaissances sur de nombreux sujets, y compris la théologie et la Bible, mais entre-temps, cela nous amène à lui donner, à lui la gloire pour toujours. Bien-aimés, considère que nous ne faisons pas ce que nous devrions lorsque nous sommes motivés par une autre raison que celle de donner gloire à notre Dieu. En tant que chrétien, vous êtes à Dieu et par Dieu, et je prie le Seigneur que vous soyez pour Dieu. Puisse le Seigneur permettre que rien d'autre ne fasse battre notre cœur, si ce n'est que l'amour pour lui. Que ce désir de voir Dieu glorifié enflamme tout notre être, que cela soit le fondement de tout ce que vous entreprenez, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous voulez, de tout ce que nous accomplissons. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Aide-nous, Seigneur, pour te donner toujours la gloire dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail. Merci Seigneur par ta parole, aide-nous à penser dans ces paroles, méditer en elles et appliquer ta parole à nos vies, Seigneur. En Jésus-Christ, Amen.